La chemise arrive.
Info, invité, reportage
sur Radio Centrafrique.
Vendredi, le festival Au Conte d'ailleurs se poursuit au château de Montaigu avec une soirée Conte du Monde et dégustations insolites. Après une première soirée consacrée à la Belgique, nous partons en Martinique avec le conteur Valère Aigouy que nous présente Jean-Marc Biollet, directeur du festival Au Conte d'ailleurs.
C'est un garçon que j'ai rencontré à Montréal, qui est un garçon fabuleux. Alors là, le conte martiniquais, c'est très coloré, c'est très gai, on chante, on danse et on conte. Et on écoute des belles histoires. C'est quelque chose de très enlevé, très coloré.
Vous pouvez nous parler un peu de son parcours à Valère Aigouy?
Alors, son parcours, je sais que c'est quelqu'un qui touche un petit peu à tout. C'est un musicien, c'est un danseur. C'est quelqu'un qui a aussi l'occasion de faire pas mal de films, reportages sur la Martinique. C'est quelqu'un qui est très ancré sur la Martinique, qui aime beaucoup son île. Et qui est le Martiniquais comme on peut s'imaginer. Quelqu'un de très beau garçon, très sensuel et qui dégage énormément. C'est quelqu'un de très athlétique et qui compte son île. C'est un passionné, un fou amoureux de son île.
Ce spectacle de conte sera précédé d'un repas créole. Tiphaine Véter, chargée de l'animation et de la communication au château de Montaigu, détaille le menu et le déroulement de la soirée.
Alors le programme de la soirée, c'est une première partie de repas créole pour se mettre dans l'ambiance avec l'animation du conteur qui sera parmi nous. Le repas sera composé d'une assiette rougail-saucisse, donc un plat épicé créole. Et donc en deuxième partie, Valère Aigouy nous amènera dans ces îles et réchauffera l'atmosphère.
Donc vous accueillez les personnes à partir de 19h.
Mm-hmm.
Le repas est servi entre 19h30 et 20h30.
C'est ça.
Et le spectacle
commencera aux alentours de 21h30. On commence à accueillir les spectateurs à partir de 21h à peu près. Le prix c'est 15€ pour les adultes, 10€ pour les enfants. 8€ pour le spectacle seul et 4€ pour les enfants.
Est-ce que vous souhaitez ajouter autre chose ?
Oui, les gens peuvent très bien aller consulter notre site web sur lequel on essaye de mettre toujours un peu plus de vie et communiquer sur ce qui se passe au château de Montaigu. On essaye aussi de mettre en avant tout ce qui peut se faire autour du château parce que nous faisons des visites au château, mais on a aussi plusieurs autres bâtiments qui peuvent se visiter et puis surtout beaucoup de randonnées autour de Montaigu. Et pour ceux qui ont envie de passer une journée en famille et profiter à la fois du patrimoine bâti et du patrimoine naturel, venez nous voir.
Merci beaucoup Tiphaine Véter.
Avec plaisir.
La soirée Conte du Monde et dégustations insolites, c'est vendredi au château de Montaigu avec le conteur martiniquais Valère Aigouy. Le château de Montaigu ouvre ses portes à partir de 19h. Le repas sera servi entre 19h30 et 20h30 et un peu plus tard, vous pourrez écouter Valère Aigouy. Il est nécessaire de réserver pour le repas et pour plus d'infos, www.château-de-château-montaigu.jimdo.com.
Le CD de la semaine. Le CD de la semaine.
Le CD de la semaine.
Sur Radio Saint-Taf.
J'ai dans mon chapeau de magicien de la poudre de perlimpinpin, quelques chamallows de trois lapins, de quoi me sentir bien. J'ai pu lire dans le creux de ta main, car je suis un petit peu de vin, que nous partagerions nos chagrins et nos sourires coquins. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche ou un joli dessin. Ne sois pas farouche, si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche ou un joli dessin. Ne sois pas farouche, et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne sais si tu croises au destin, Peut-être as-tu peur des balades, mais si tu le souhaites un beau matin, nous prendrons ce chemin. Sais-tu qu'au bout se trouve un jardin, parfumé de l'odeur du jasmin, allongé à l'ombre des sapins, j'y demanderai ta main. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin, ne sois pas farouche. Mais si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin, ne sois pas farouche. Mais si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Je ne suis qu'un homme ordinaire, un pantin de rime et de chair. Au gré de nos astres lunaires, j'écris des poèmes pour te plaire. Mais que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Oui, que veux-tu ma douce, un coup de pouce, un baiser sur la bouche, pour un joli dessin, ne sois pas farouche. Et si ma langue fourche, c'est que je m'en frimousse de tes deux petits seins. Mais que veux-tu ma douce, que veux-tu ma douce, que veux-tu ma douce.
Ma douce, un morceau extrait du nouvel album de Barcella, Charabia. J'ai été missionnée pour délivrer un petit message personnel. Sharon fait savoir à ce cher Barcella qu'il est démasqué. Pas besoin de nier, tout est très clair. Sharon sait que Barcella la cherche sans relâche depuis cette fameuse soirée Bonnie. Eh bien, soit. Qu'il cherche encore et encore. Sharon reste une icône inaccessible, qui ne se laisse pas étourdir par la poudre de perlimpinpin et les jolis dessins. Comprenne qui peut. Charabia, un CD de la semaine que vous pouvez aussi retrouver sur le site internet de Radio Sainte-Afrique.
Chronique de la Maison de la Mémoire.
Alors, aujourd'hui, on va aller au sous-sol, à la cave. En fait, c'est les salles d'exposition permanentes où on conserve les objets que les gens ont déposés ou qu'ils ont donnés ou que nous, on a pu récupérer. Donc, c'est des objets, vous verrez, de la vie quotidienne, vraiment. Un peu ancienne, mais tout à fait quotidienne. Attention, ça marche. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que, enfin, je trouve en tout cas ce qui est bien avec la Maison de la Mémoire, c'est qu'il y a l'aspect archive, donc qui donne des renseignements, il y a les bouquins qui complètent ou qui mettent dans le contexte, mais il y a aussi, voire même surtout les objets, qui racontent plein de choses qu'on ne trouverait pas autrement, quoi. Parce que quand les gens nous amènent quelque chose, un objet quel qu'il soit, en général, ils ont toujours une petite histoire derrière. Sur eux, leurs parents, leurs grands-parents, etc. Et qui vraiment révèlent la vie de la société à un moment, quoi. Et des fois, c'est des choses qui ont l'air de pas forcément grand-chose, comme par exemple ce panier-là, qui est un panier en osier de forme cylindrique. et en fait qui servait à transporter les fromages de Roquefort. Et là où je trouve que ça devient un peu plus intéressant, c'est que donc ces paniers, on a commencé à en fabriquer dans les années 1800, et puis après, avec le 19e siècle, c'est vraiment le moment où l'industrie de Roquefort, eh ben, elle prend son essor. Donc du coup, on en fabrique encore plus. Mais c'était cantonné à un seul village, à Saint-Jean-d'Alcapiès, où il n'y avait pas d'autres fabricants ailleurs, quoi, en fait. Et ils faisaient venir parfois de l'Osier, de l'Hérault ou de l'Aude, et ils fabriquaient les paniers. C'était les gens du village, donc c'est parce que ça leur faisait un salaire de plus. Et ils fabriquaient les paniers dans le village de Saint-Jean-d'Alcapiès, donc. Et ensuite, on est passé à cette espèce de cajot, un peu plus grand qu'un cajot aujourd'hui. Et en fait, qui est intéressant aussi parce que, donc là, on bossait sur les moulins, enfin, on continue. Et en fait, c'est ces cajots-là qui étaient fabriqués dans les moulins dans la scierie de Sainte-Afrique. Et donc, c'est ceux qui ont remplacé les premiers paniers en osier. Donc voilà, maintenant, il faut qu'on regarde si des fois, il n'y aurait pas un tampon pour connaître la provenance. Après, il y a des choses encore, ouais, toujours aussi anodines, comme par exemple la seille. Donc en fait, c'est le récipient dans lequel qu'on mettait sous la brebis et dans lequel on récoltait le lait, ou le bidon qui permettait de transporter le lait. Et en fait, la dame qui nous l'a apporté nous expliquait que ses parents tenaient une quincaillerie dans Sainte-Afrique, mais ils avaient quelques brebis sur la montagne de Soulsou, là, juste derrière chez nous. Et en fait, tous les jours, ils se trimbalaient à pied avec leur bidon sur le dos, un bidon de 20-30 litres pour aller traire les brebis et puis redescendre le lait chez eux, quoi. Donc c'est des objets assez industriels déjà, en fer blanc, qui ont rien de particulier, mais des fois l'histoire des gens, ben, ça apporte un complément d'infos et que nous on ne trouverait pas autrement, quoi. C'est un peu comme c'est une espèce de témoignage différé, en fait. Après, il y a une autre pièce qui est plus dédiée à l'intérieur de la maison, autour de la cuisine, la lessive, etc. Et où des fois, il y a quelques petites pièces assez amusantes, comme par exemple cette, on va appeler ça une gourde. Je crois qu'on appelle ça un poron, en langue d'ossien. Et en fait, donc, c'est une sorte de gourde qui permet de boire à la régalade, donc voilà. Que souvent les gens prenaient quand ils allaient travailler dans les vignes en plein soleil. Donc elle est en terre, et là où ça, je trouve que ça traduit bien une mentalité ou des soucis, des préoccupations des gens, c'est qu'on voit clairement qu'elle a été cassée, mais aujourd'hui si on casse une gourde ou une carafe, à mon avis ça part direct à la poubelle, et puis on va dans le premier magasin qu'on trouve, on en rachète une, alors que là non, en fait. On voit qu'il y a des agrafes en fer, et qu'il y a encore tout autour de l'enduit. Donc en fait, ils avaient le souci de, c'est peut-être pas forcément de l'économie, mais en tout cas du réemploi, et vraiment jusqu'à ce que, à moins qu'elle soit brisée en mille morceaux, à mon avis. Et ça, c'était valable pour tout, c'est valable aussi pour les seaux en fer ou même les couverts. Il y avait un artisan qu'on appelait le rétameur, qui est assez connu parce qu'il se baladait de village en village, et sa spécialité, lui, c'était de faire de la soudure ou des choses comme ça pour réparer justement les seaux qui étaient percés, les couverts qui étaient cassés. Etc. Il y avait toute une série de petits artisans ambulants qui s'occupaient de ça, comme aujourd'hui on peut imaginer à peu près le seul qui doit rester, c'est le rempailleur de chaises. Quand une chaise en paille est cassée, enfin, il n'y a plus de paille, en général on ne la jette pas, on la rempaille. Donc voilà, c'est un peu le même principe. Et après, il y a des objets un peu plus hétéroclites, comme par exemple le piège à loup là-haut, en haut de la cheminée. Parce qu'en fait, c'est une grande préoccupation, on ne s'en rend pas compte, mais au 19e siècle, on trouve plein de papiers à Sainte-Afrique où ils organisent des chasses, des battues aux loups, quoi. Alors reste à savoir si c'est des loups tels qu'on les imagine aujourd'hui ou si c'est des chiens sauvages particulièrement méchants. Mais quoi qu'il en soit, ouais, il y avait des chasses organisées où les gens se défendaient comme ils pouvaient, et entre autres avec ce genre de piège rigoureusement interdit aujourd'hui. Après, il y a plusieurs objets qui expliquent aussi comment fonctionnaient les gens, et notamment pas mal qui fonctionnent à la braise, avec la braise du feu. Alors, il y a le moine pour se chauffer dans le lit, la vieille dame qui est assise sur sa chaise en train de moudre son café, là, les pieds sur un chauffe-pied, en fait. Pareil, on mettait de la braise à l'intérieur pour se réchauffer. Donc, parce que oui, c'était le seul moyen qu'on avait pour se chauffer. Et après, c'était aussi un des soucis majeurs, parce qu'on retrouve régulièrement soit des incendies de maison, alors ça, c'était super fréquent, soit des accidents un peu plus dramatiques ou des gens qui s'endormaient au coin du feu, notamment les femmes qui avaient des robes super longues, qui allaient jusque vraiment aux chevilles, aux souliers. Parfois, la robe ou le jupon s'enflammait. Et puis après, il y a tous les ustensiles de cuisine qui n'ont pas vraiment évolué. Donc toujours les mêmes, quoi. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi des artisans, on en avait parlé, parce que c'était le cas de là où vous êtes à Radio Saint-Taf, c'était un artisan qui fabriquait des poêles, des casseroles, des chaudrons en cuivre ou en fer. Et après, chacun avait sa spécialité. Le gros, par exemple, en bas, c'est plutôt pour faire la soupe pour les cochons. Parce que sinon, il y a de la soupe pour un mois, là. Après, il y a la poêle à châtaigne, enfin, etc. Ce qu'on appelle aussi les padennes. Donc les poêles à longue manche, etc. Après, il y avait toutes celles qui étaient en terre aussi, qu'on pouvait laisser sur le bord du feu pour tenir au chaud, quoi.
On poursuivra cette visite des caves de la Maison de la Mémoire avec Florian Boulet la semaine prochaine. Chronique de la Maison de la Mémoire. Avec la participation de toute l'équipe de la Maison de la Mémoire du pays saint-africain. Florian Boulet, Sophie Roumégous, Julien Cossat, Delphine Diez, Stéphane Géniès.